podcast Art du Fleu numéro 1. Art du Fleu, c'est le podcast qui associe théorie et pratique de classe dans l'enseignement du français langue étrangère. Alors au sommaire aujourd'hui, des actus, un dossier sur le cadre européen commun de référence et la perspective actionnelle, un point tech et la rubrique fourre-tout. Et on commence tout de suite par les actualités. Alors, dans l'actualité, ce mois-ci, j'ai repéré sur fleu.fr un atelier de phonétique, oralité et écrit, intitulé « Oser innover pour plus de réussite en didactique du français langue étrangère, français langue seconde et français langue de scolarisation ». Alors, ça se passera le vendredi 26 à la librairie Attica, de 13h30 à 17h30. C'est animé par Odile Ledru-Meneau. Et ça n'est pas gratuit. 75€ pour l'inscription, 50€ si vous êtes étudiant. Mais le programme a l'air très, très intéressant et très alléchant. Autre chose aussi, coalternative.fr, donc c'est une association qui annonce plusieurs formations à venir, qui ont l'air très intéressantes et très orientées pratiques. Donc on a une formation sur la méthodologie de l'oral, donc adaptée à la communication orale, pour mieux déterminer les objectifs, développer des savoir-faire, etc. On a aussi partir des erreurs, un levier pour l'apprentissage, qui peut être très très intéressant. Le e-learning, pourquoi, comment, créer un référentiel de formation. Alors toutes ces formations sont payantes, mais vous pouvez obtenir des aides financières pour les suivre. Alors ensuite, les journées clés formation à l'Alliance française de Paris. Alors là, c'est très intéressant également. Pour le vendredi 19 avril, il faut se dépêcher. C'est gratuit, complètement gratuit, et une fois que vous êtes inscrit, la présence est obligatoire. Alors ça se passera le vendredi 19 avril de 9h à 18h, donc c'est l'Alliance française de Paris, donc à Paris, hein, boulevard Raspail. Il y a deux conférences plénières, une sur les méthodes, techniques, innovations en français sur objectifs spécifiques pour mieux répondre aux besoins des professionnels, animée par Dominique Frein et Alexandre Hall. Et ensuite une conférence plénière B, qui est une table ronde, quel parcours pour quel objectif, toujours avec Dominique Frein, Adeline Vulgaris, Bruno Maigre, et le modérateur sera Sébastien Langevin. Ensuite, il y a 6 ateliers, donc des introductions aux activités de théâtre pour adultes, comment réussir ses études universitaires en français avec un DELF, construire une offre de formation linguistique en contexte professionnel, le numérique en classe de FLE, apprendre, enseigner autrement et s'adapter aux besoins actuels, autonomie de l'apprenant peu ou pas scolarisé, comment utiliser les documents de la vie quotidienne en classe, et le français, une langue pour réussite, des certifications pour le futur. Voilà, toutes les informations se retrouvent sur les journées clés formation. Un colloque aussi à Milan, un colloque sur les TIS, qui se déroulera, lui, le 19 avril et le 20 avril. Alors là aussi, le programme est très intéressant parce que très proche du terrain. Donc on aura des interventions comme s'approprier les TIS, pourquoi est-ce que nous bloguons, collaborer avec les TIS dans le blog Ivoix, un projet européen entre lycéens français et italiens. Créer sa propre ressource audio-vidéo et la déposer en ligne, initiation à la pratique du TNI, donc le tableau numérique interactif, créer un blog en classe, etc. Je vous laisse tout ça, tous ces ateliers sont très, très proches du terrain et à mon avis ça doit être très intéressant si vous n'êtes pas loin de Milan, ça vaut peut-être le coup d'aller y jeter un coup d'œil. Toutes les infos et les liens vers ces différents événements sont bien sûr rassemblés sur le site artdufleu.net dans la section podcast. Et il est temps de passer à la rubrique dossier. Et c'est parti pour le dossier du podcast Art du Fleu numéro 1. Alors on va parler donc du cadre européen et de la perspective actionnelle. Alors il faut bien comprendre que dans ce dossier, je ne tiens pas à faire un cours magistral. mais simplement essayer de vous montrer un exemple de comment est-ce qu'on peut appliquer les recommandations du cadre européen en cours, et comment est-ce qu'on peut essayer de construire un cours en suivant toutes ces recommandations. J'ouvre donc ce podcast à la discussion. Vous pouvez laisser vos commentaires sur le site artdufleu.net, ou même me contacter directement via le site si vous avez d'autres recommandations à faire, d'autres idées, ou si vous n'êtes pas d'accord, ou si vous souhaitez compléter tout ce que je vais dire dans ce dossier. Il n'y a aucun problème, je pourrai ensuite vous recontacter pour essayer d'organiser une interview. Alors, je commence ce dossier en présentant le cadre européen commun de référence. Donc, c'est un livre rouge disponible gratuitement au téléchargement sur le site du Conseil de l'Europe. Vous pouvez aussi l'acheter en version physique, il est édité chez Didier. Alors, le rôle du cadre européen commun de référence pour les langues, c'est d'harmoniser l'enseignement des langues partout en Europe, et même partout dans le monde, en fait, puisque le succès du cadre européen a maintenant dépassé largement les frontières des pays membres du Conseil de l'Europe. Il a donc été conçu pour établir une base commune qui définit les niveaux, les compétences, les objectifs à atteindre dans l'enseignement des langues étrangères. Dans le cadre européen, donc, l'apprenant est considéré comme un utilisateur de la langue, c'est-à-dire qu'il doit agir par l'intermédiaire d'activités langagières dans un contexte. Ça veut donc dire qu'il va exercer sa compétence à communiquer langagièrement dans des activités langagières pour accomplir des actions sociales dans un contexte privé, public, professionnel ou éducationnel. Je reprends notion par notion. On a donc parlé de compétence à communiquer langagièrement. C'est une compétence pour communiquer qui comprend trois composantes: linguistique, pragmatique, sociolinguistique. La composante linguistique, c'est tout ce qui concerne le fonctionnement de la langue, donc la prononciation, l'orthographe, la syntaxe, etc., etc. La composante pragmatique, c'est tout ce qui regroupe la cohérence, la cohésion d'un texte. Et sociolinguistique, c'est l'adaptation donc de la langue au contexte social dans lequel elle est utilisée. On a dit que l'apprenant donc utilisait cette compétence dans des activités langagières. Des activités langagières, on en compte quatre: la réception, la production, l'interaction et la médiation, le tout à l'oral et à l'écrit. On a dit aussi qu'il agissait dans un contexte. Donc le contexte ici, le cadre nous parle de quatre domaines: privé, public, professionnel ou éducationnel. Le contexte est très important parce que c'est lui qui va nous déterminer les contraintes, qui va imposer des limites dans lesquelles l'apprenant doit agir. Voilà les recommandations. Donc maintenant, nous, en tant que professeurs, il faut se dire comment est-ce que je peux trouver une approche qui me permettra de rester dans cette perspective actionnelle. Donc je vais vous proposer ici un exemple qui n'est pas du tout un modèle. On voit plusieurs méthodes sortir, se revendiquer du cadre européen. Elles ont toutes des approches différentes. C'est pas une approche qui est meilleure qu'une autre, mais c'est celle que nous avons choisie en fonction de notre contexte de travail et de notre public. Concrètement, quand on construit nos cours, on va bien sûr commencer par déterminer nos objectifs linguistiques et pragmatiques. Avec ces objectifs, on va essayer de trouver une tâche à faire, c'est-à-dire un scénario dans lequel ces objectifs pourront rentrer. Par exemple, si mes objectifs sont écrire une lettre officielle, parler au passé, utiliser les connecteurs temporels, je vais pouvoir essayer de les faire entrer dans une tâche telle que écrire une lettre de motivation pour obtenir un poste. Une tâche doit se composer de trois éléments: des objectifs, un contexte dans lequel l'apprenant utilisateur a un rôle à tenir, et les caractéristiques de production. Je vais prendre un exemple ici pour être plus clair. Si la tâche que je propose à mes apprenants est de choisir un candidat pour un poste, d'accord, je vais devoir mettre un contexte. Mes apprenants travaillent pour les ressources humaines d'une entreprise. Un poste est à pourvoir. Ils doivent choisir le meilleur candidat pour ce poste. Je dois ensuite choisir la forme de réalisation. Ici, je vais dire que mes apprenants doivent écrire une lettre à leur supérieur dans laquelle ils font leurs recommandations au sujet des candidats qui ont postulé. Dans mes objectifs, qui sont déterminés préalablement par la structure généralement, je parle de la structure de travail, là je vais pouvoir travailler donc les temps du passé, l'expression de la date, le vocabulaire des compétences, des savoir-faire, des connaissances, les formes de l'écrit officiel et les formules de politesse, etc. Maintenant que j'ai tous ces éléments, c'est-à-dire le contexte de ma tâche, le rôle de mes apprenants, mes objectifs et la forme de réalisation, je vais diviser ma tâche en plusieurs étapes. À chaque étape seront rattachés des textes audio ou écrits, des textes oraux pardon ou écrits, et des objectifs linguistiques. Pour choisir un candidat, je vais d'abord regarder et comprendre le descriptif de poste. Ensuite, je vais examiner des candidatures. Une troisième étape sera de faire mon choix, et la dernière étape, ce sera la réalisation, c'est-à-dire écrire mon courrier qui recommandera le candidat que j'ai choisi. Dans la première étape, c'est-à-dire regarder et comprendre le descriptif de poste, je vais pouvoir rattacher des objectifs tels que le vocabulaire des compétences, des connaissances, et puis les structures qui sont rattachées. Pouvoir, connaître, savoir, etc. Dans la deuxième étape, examiner les candidatures, je vais pouvoir utiliser des supports vidéo, parce qu'il y a de plus en plus de CV vidéo maintenant, et puis je vais pouvoir travailler les objectifs qui seront les temps du passé, l'expression de la date, le vocabulaire de la formation, de l'expérience, et des hobbies. Pour la troisième étape, il va falloir choisir le candidat. Là, ça peut être justement le moment de travailler l'interaction orale, puisqu'ils vont pouvoir choisir en petits groupes quels sont selon eux les meilleurs candidats, et en fonction de quels critères est-ce qu'ils vont choisir. Et la dernière étape, ce sera évidemment la réalisation de l'écrit, où là, on va pouvoir travailler les temps du passé, encore une fois, le vocabulaire qu'on a vu dans les deux premières étapes, et la justification qui aura été vue dans la troisième étape, puisqu'ils auront à justifier leur choix. Alors, quels sont les avantages de procéder de cette façon ? Eh bien, c'est tout simplement que ça donne une certaine cohérence dans l'enchaînement des activités. Tout est justifié par la réalisation de la tâche, et donc les apprenants, eux, savent très bien pourquoi est-ce qu'ils lisent un document, pourquoi est-ce qu'ils regardent une vidéo. C'est tout simplement parce qu'ils auront besoin des informations contenues par ces documents pour réaliser leur tâche, à savoir la sélection d'un candidat. Maintenant qu'on a parlé de la théorie, on va essayer de voir ensemble comment est-ce qu'on peut mettre en application tous ces concepts dans la salle de classe. Par souci de clarté, je vais garder le même exemple de la tâche « Choisir un candidat et écrire une recommandation pour son supérieur ». La première étape est la présentation de la tâche. C'est une étape importante, cruciale, parce que c'est celle qui va déterminer l'adhésion des apprenants au projet. Et puis, c'est aussi elle qui va tenir à bout de bras un petit peu toute la cohérence des autres activités, qui va justifier tout ce que vous allez faire derrière pendant le cours. Alors, pour cette première étape de présentation de la tâche, on peut tout à fait envisager de travailler à partir d'un courrier électronique reçu par les apprenants. Un courrier électronique donc qui explique la situation dans laquelle se trouve l'apprenant et ce qu'il doit faire. L'intérêt, c'est le souci de vraisemblance d'une part, et d'autre part, ça permet de poser clairement quel est le rapport entre celui qui écrit et son destinataire, de façon à ce que les apprenants sachent exactement quel registre de langue est à utiliser dans la production finale. On fait découvrir donc aux apprenants ce document, et ensuite vient le moment d'une discussion pour clarifier et mettre tout le monde d'accord sur ce qu'il nous est demandé de faire précisément dans cette tâche. C'est aussi la première occasion d'utiliser le vocabulaire. Donc le vocabulaire du travail, du poste, de la candidature, etc., etc. Ensuite, on va discuter avec eux de ce qu'on doit faire pour réaliser la tâche, donc les différentes étapes. Donc lire le descriptif de poste, regarder les candidatures, décider de quel sera le meilleur candidat, et ensuite faire la production finale. Après la découverte de la tâche, on va donc passer aux choses sérieuses avec la première étape de la réalisation, c'est-à-dire la découverte du descriptif de poste. Ici, vous pouvez faire absolument toutes les activités de réception que vous souhaitez, des questions ouvertes, des QCM, de la reformulation, tout est possible pour comprendre ce document. Et puis, votre objectif ici, comme on l'a dit, ce sera de travailler sur le vocabulaire des compétences, des connaissances, et puis les structures, pouvoir avoir la capacité, être capable de, avoir la capacité de, connaître, savoir, etc. Donc on va s'intéresser dans le document à ces points de langue-là. On va conceptualiser, réfléchir sur la langue ensemble. Je reviendrai peut-être dans un autre dossier sur ces différentes activités. Ensuite, on aura des exercices qui font partie toujours de la conceptualisation, c'est-à-dire qui aident à comprendre. Et puis après, on pourra avoir des exercices d'entraînement un peu plus complexes qu'ils feront à la maison. Et on espère qu'ils auront pu acquérir ce vocabulaire et ces expressions pour la suite de la tâche. Mais vous pourrez le vérifier dans les différentes étapes. On en arrive maintenant à la deuxième étape, donc l'étude des candidatures. Donc ici, si on utilise des CV vidéo, on va dans un premier temps faire les activités qu'on souhaite pour vérifier la compréhension des apprenants, retenir les informations qui sont pertinentes si on les met en regard de ce qu'on a vu sur le descriptif de poste. Ensuite, on pourra faire un focus linguistique sur bien les temps du passé qui sont utilisés et aussi les indicateurs temporels comme pendant 2 ans, il y a 5 ans, etc., etc. Même chose, une étape d'observation de la langue, de la conceptualisation, de l'entraînement, etc., etc. Et on arrive ainsi à la troisième étape, c'est-à-dire le choix du candidat. Ici, en sous-groupe, les apprenants vont pouvoir discuter de qui leur semble le meilleur candidat et quels sont les critères qui ont été retenus pour faire cette sélection. C'est l'occasion ici de réutiliser tout ce qu'on a pu voir avant sur le vocabulaire et les temps du passé. Donc une phase un petit peu de réutilisation, de renforcement un peu de tous les objectifs linguistiques qui ont été vus précédemment. Vient enfin la quatrième étape, c'est-à-dire la réalisation de la tâche, écrire un courrier à son supérieur avec les recommandations, le candidat donc qu'on préfère. Cette phase est un peu particulière parce que on n'a pas de document de réception ici, et pourtant il va nous falloir bien comprendre la forme de l'écrit, les formules de politesse, l'organisation de la lettre, etc. Pour cela, on peut se référer au tout premier document qu'on a utilisé pour présenter la tâche. Si on avait utilisé une lettre ou un courrier électronique, on peut revenir sur ce courrier pour regarder un petit peu quelles sont les formules de politesse qui ont été utilisées, comment est-ce qu'on organise l'expéditeur, le destinataire, la date, l'objet, et on peut aussi revoir le registre de langue qui a été utilisé. Voilà, il ne reste plus à l'apprenant qu'à rédiger son courrier avec tous les outils qui ont été vus. Tout le vocabulaire, les points de grammaire doivent être réinvestis dans ce courrier. Et pour nous, ce n'est pas fini, car après va venir la période de l'évaluation. Alors, c'est une question assez complexe que je ne vais pas aborder aujourd'hui, mais il faut savoir qu'elle est cruciale. Ça ne sert à rien de faire une activité de cours s'il n'y a pas un retour formatifs pour le groupe ou individuellement au choix, mais il faut absolument qu'il y ait ce retour sur la production. Vous ne pouvez pas juste laisser vos apprenants faire leurs tâches et puis après s'arrêter comme ça sans rien faire de plus. Il va falloir leur montrer ce qu'ils ont fait de bien, ce qu'il faut encore travailler, tous les points qui ont été acquis, ceux qui demandent encore du travail. Tout ça est très important pour le parcours et l'autonomisation des apprenants. Si je résume, on part des objectifs pragmatiques, linguistiques, socioculturels. Avec ces objectifs, je vais créer une tâche. Cette tâche va prendre place dans un contexte dans lequel l'apprenant aura un rôle à jouer. Et il ne faut pas oublier non plus que cette tâche doit donner lieu à une réalisation concrète et précise. Cette tâche va être ensuite divisée en plusieurs étapes. À chaque étape correspondront des objectifs précis. Toutes ces étapes vont mener à la réalisation de la tâche. Et on va pouvoir, avec la réalisation de la tâche, contrôler l'acquisition des objectifs que nous nous sommes fixés. Comme je l'ai dit au départ, cette façon de travailler, cette approche, est celle que nous avons choisie, mais ce n'est en aucun cas la meilleure. Il faut savoir qu'elle a des avantages et des inconvénients. Dans les avantages, c'est évidemment la structure, la cohérence de la structure. Chaque apprenant qui lit un document sait pourquoi il le lit. Il sait qu'à l'intérieur, il va trouver des informations qui vont lui être utiles. Donc ça, c'est vraiment le point fort de cette approche. Un autre point fort est la progression en spirale, puisque chaque objectif vu dans les étapes peut être revu par la suite et réutilisé dans la réalisation finale de la tâche. Le point faible, c'est si vous n'avez pas un public très captif et que vous avez beaucoup d'absents, s'ils loupent plusieurs séances, ils vont être complètement perdus et vont passer complètement à côté des objectifs. Donc il faut faire attention à ce qu'on utilise, si c'est adapté ou pas à nos apprenants. Si vous avez des apprenants qui viennent de façon sporadique au cours, ce n'est certainement pas une approche qu'il faudra utiliser, car elle ne leur correspondra pas du tout. Ils seront perdus en cours et vous ferez pire que mieux. Voilà, c'est tout pour ce premier dossier. Alors j'espère qu'il n'a pas été trop dense ou que je ne suis pas passé trop vite sur certaines notions. De toute façon, on se retrouve sur le site ardufleu.net pour vos commentaires et évidemment tous vos conseils pour améliorer cette partie. Merci à tous. On passe donc maintenant à la rubrique techno. Une rubrique techno assez courte cette semaine, je vais vous parler d'une application que vous connaissez peut-être qui s'appelle Larousse. Alors Larousse, le dictionnaire Larousse, hein, que vous connaissez sous sa forme papier évidemment, existe en trois versions différentes. Une version web, gratuite, une version iPhone Android, qui est payante à 5,49€ je crois, et une version iPad qui est la version illustrée. Alors, moi je vais me concentrer sur la version web et puis la version iPhone Android. Pourquoi revenir sur ce dictionnaire ? Tout simplement, c'est parce que c'est un outil que je conseille volontiers à mes apprenants de niveau relativement avancé, disons début B2. Elle présente l'avantage de donner la définition des mots, de présenter aussi les expressions qui contiennent ces mots, et si c'est un verbe, de donner un accès direct aux conjugaisons. Donc c'est très, très pratique. En plus de ça, il y a souvent une rubrique difficulté, donc qui va aider à expliquer grammaticalement le fonctionnement d'un terme. Donc si vous cherchez tout, par exemple, on va vous expliquer la différence entre tout adjectif, tout adverbe, etc., etc. De la même façon, si vous cherchez par exemple continuer, on va vous expliquer la différence entre continuer à et continuer de. Vous pourrez retrouver le lien vers toutes ces applications sur le site ardufleu.net dans la rubrique podcast. Deuxième chose que je voulais vous présenter, toujours dans la rubrique technologie, c'est la start-up Flix. Alors Flix travaille pas malheureusement en français langue étrangère, mais propose aux étudiants français qui apprennent l'anglais de regarder des séries en version originale. Alors vous pouvez activer les sous-titres en anglais avec des degrés de difficulté. Donc si vous le mettez très facile, vous allez avoir tous les sous-titres. Si vous augmentez graduellement la difficulté, vous aurez de moins en moins de sous-titres jusqu'à ne plus en avoir. Alors, ils ont énormément de séries à leur catalogue. Tout ça est gratuit. La version payante, elle, donne lieu à des exercices, des activités, et puis vous permet de voir votre progression. Alors, je n'ai pas essayé la version payante. Je me suis contenté de tester la version gratuite, mais je trouve l'idée très intéressante. Deuxième actu technologie qui est à relever cette semaine, c'est le site babel.com que vous retrouvez aussi en lien sur le site ardufleu.net section podcast. Donc cette start-up vient de lever, je crois, 10 millions de dollars, ce qui est énorme, et elle va s'attaquer au marché français. Alors, c'est une société berlinoise qui propose d'apprendre les langues. Et alors bon, j'ai testé un tout petit peu, ça fonctionne beaucoup par la traduction. J'ai testé le test de placement, et puis après, qu'on soit en niveau avancé ou en niveau débutant, c'est toujours un peu les mêmes activités. Donc, qui se base sur la traduction, remettre dans l'ordre des mots, choisir les mots en fonction des situations, etc. Vous pouvez tester ça gratuitement. Pour être complètement honnête, c'était pas très très intéressant, mais peut-être qu'avec tout ce financement, ça deviendra un produit qu'il faudra surveiller. Voilà, c'est tout pour la partie technologie, et on va passer à la dernière partie, la partie fourre-tout. Alors, tout d'abord, je signale que sur le site de TV5 Monde, on a célébré la semaine de la presse et des médias à l'école. Alors, il y a plein de choses, d'émissions intéressantes, avec des activités intéressantes sur les slogans, les publicités, etc. Je vous ai mis le lien sur le site de l'émission, donc ardufleu.net, section podcast, et vous pourrez regarder ça en toute tranquillité, mais vraiment, ça vaut le coup d'œil. Ensuite, sur le blog Apprentissage du français, aide aux étudiants de français langue étrangère dans leur apprentissage, il y a tout un dossier sur le film d'animation Azur et Asmar. Et ça vaut le coup aussi de travailler là-dessus. Alors, c'est pour les niveaux débutants et intermédiaires, avec une proposition d'exploitation pédagogique pour les grandes sections, les CP, etc. Donc, pour ceux qui travaillent avec des enfants, ça peut être tout à fait intéressant. Toujours pour les enfants, mais aussi peut-être pour les grands, pourquoi pas, le site compte-moi.net propose un conte qui s'appelle Le Lion et le Hérisson. C'est un conte du Mali. Et évidemment, comme à chaque fois, vous pouvez écouter le conte en streaming, lire, avoir accès au texte en PDF et même une fiche pédagogique écrite par un enseignant du Mali dont je ne connais pas le nom. Le site slate.fr aussi propose un dossier sur franglais et anglicisme quand le français se met à parler anglais. Alors c'est un dossier très complet où on nous parle de trois types d'anglicisme. Quasi inévitable, critiqué, remplaçable, jeunes et hype, etc. Il y a évidemment des liens vers des vidéos, etc. Et c'est un dossier très très intéressant que vous pouvez utiliser sans doute dans vos cours. Ensuite, sur l'excellent blog Insuffle, il y a une présentation dynamique sur les réseaux sociaux en classe de FLE, ça marche, point d'interrogation. Donc je vous invite à la regarder parce qu'elle est vraiment très très intéressante. Tous les liens sont bien sûr sur le site de l'émission. Et puis il y a un dossier sur l'inégalité entre garçons et filles, faisons bouger les choses. Alors là aussi, vidéo, etc. La fiche pédagogique à télécharger, tout est là. Vous n'avez qu'à vous servir et à dire merci. Autre chose que j'ai pu repérer aussi sur le site edufle.net, un dossier sur les jeux de société à utiliser en cours. Alors, on repasse ici beaucoup de jeux de société, bon, des très connus comme Brainstorm, Déclic, etc. Et puis des moins connus comme Il était une fois, Le loup-garou de Tirselieu, Link, etc. C'est très intéressant et je vous invite à regarder. Et pour ceux que les jeux de société intéressent, il y a un excellent podcast qui s'appelle Proxy Jeux, disponible sur le portail freepod.net, que je vous invite à découvrir. Toujours sur Edufle, il y a 10 cours intitulés autour de le colonel Chabert. Donc là, c'est tout un ensemble d'activités autour du film Le Colonel Chabert avec Gérard Depardieu. Il y a énormément à faire. Toutes les activités sont précisées. Vous n'avez qu'à vous servir. Et voilà, c'est tout pour ce numéro. On se quitte et on se retrouve le mois prochain. Et d'ici là, bon cours! I got the